Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Sarah Torres, coordinatrice de l'Institut des Afriques, qui a organisé un partenariat avec la librairie Mola cette rencontre de ce soir. Juste un petit mot sur l'Institut des Afriques. C'est une association régionale qui regroupe un certain nombre d'acteurs qui ont pour lien l'Afrique, les mondes africains, que ce soit dans les champs universitaires, associatifs, culturels, institutionnels, et qui met en place de l'événementiel pour promouvoir les dynamiques africaines ici sur nos territoires. Donc c'est à cette occasion, et je remercie la librairie Mola et les éditions Belin, que cette rencontre est organisée autour du livre de Georges Courade, « L'Afrique des idées reçues ». Et cette rencontre sera animée par Annie Chenot-Loquet, qui est rattachée au laboratoire « Les Afriques dans le monde », et que je remercie également pour sa participation. Voilà. Bonne rencontre.
Merci. Et bonsoir.
Merci Sarah, bonsoir. Donc, je vais très rapidement dire deux mots sur ce livre et puis laisser la parole à Georges qui se présentera lui-même et puis qui rentrera dans le vif du sujet avant de reprendre point par point ses idées reçues. Alors, c'est un livre tout à fait passionnant, mais impossible à résumer. Je m'y suis beaucoup perdue. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais je vais y arriver. En tout cas, il est absolument passionnant parce que même s'il peut paraître complexe, il est très bien écrit, très clair. Il y a même quelquefois des petites anecdotes, un langage tout à fait agréable. Donc il est facile à lire, extrêmement documenté, mais très facile à lire, bien qu'il soit très synthétique. Alors ça s'appelle « L'Afrique des idées reçues ». Alors les idées reçues, c'est... Georges va expliquer pourquoi ces idées reçues. Et ce que ça signifie encore aujourd'hui, puisque c'est la deuxième édition. Il y a eu une édition d'abord en 2005 et puis une réédition en 2016 parce que c'était tout à fait nécessaire, parce qu'il va nous expliquer pourquoi, parce qu'il y a de nouvelles idées reçues qu'il faut combattre et sur lesquelles il faut discuter. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 50 idées reçues qui sont exposées en 5 parties. Il va en parler. Alors chaque fois, il s'agit un petit peu de faire l'état des lieux de la question. Donc il prend... Enfin, c'est un ouvrage collectif. Je dis « il », c'est un ouvrage collectif, mais qui a été beaucoup quand même repris par Georges, avec certains articles qu'il a rajoutés lui-même. Mais c'est pas... les écritures restent quand même... On voit qu'il y a eu un gros travail au niveau de l'écriture, de la rédaction. Tous les articles sont faciles à lire. Et donc, il s'agit de prendre une idée reçue, une idée, un poncif, etc., et de le décortiquer, de voir quelle est la partie. Parce que souvent, il y a une partie, c'est en partie vrai. C'est en partie vrai, c'est en partie faux, mais surtout, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce qui est la performance de ce livre, c'est d'arriver à rentrer dans la complexité des situations africaines, et Dieu sait si ce continent est complexe, dans sa complexité et dans sa diversité aussi, tout en restant très clair. Ce qui est vraiment, moi, je trouve, une performance. Ça fait 400 pages, mais je vous assure, on ne s'ennuie pas à un moment. Et on peut vraiment... Alors, il y a plusieurs façons, il va dire aussi, de le prendre. On peut choisir différents thèmes. Par exemple, l'agriculture, vous allez la trouver dans différentes parties. L'urbain aussi. Et on peut le lire de façon linéaire. Et puis, à chaque fois, il y a des petits résumés très clairs à la fin de chaque article, qui sont assez courts en général, qui font quoi ? 5-6 pages ?
5 pages.
Voilà. Ouais. Donc, voilà, quelle a été, Georges, explique-nous quelle a été donc l'idée de ce livre et pourquoi tu l'as repris 10 ans après.
Ok, je vais peut-être me présenter.
Et puis tu te présentes, voilà, bien sûr.
D'où je parle, quelle expérience de l'Afrique ai-je. Bon, donc, moi, je suis arrivé en 1969 en Afrique et j'y ai travaillé jusqu'en 2014. En 2014, j'étais à Bamako en train de faire une conférence, d'ailleurs, sur la question de l'avenir de l'Afrique. Donc, entre ces deux dates, je me suis trouvé à la fois chercheur pur sucre, si je puis dire, professionnel de l'Orstom d'abord, IRD ensuite, Institut de recherche et développement, dont la vocation était de travailler sur les pays du Sud, entre guillemets tropicaux ou intertropicaux. Et ensuite, j'ai été enseignant-chercheur, aussi à l'Institut d'études pour le développement économique et social à l'Université de Paris 1 pendant une quinzaine d'années. J'étais en même temps éditeur, et c'est peut-être pour ça que je me suis efforcé de rendre facile à lire, si vous voulez, le savoir que nous accumulions, puisqu'il y a 30 auteurs, hein, il y a plus de 30 auteurs dans cet ouvrage, dont plusieurs sont décédés. Et je rendrai hommage à Jean-François Médard, qui est un Bordelais, un très bon ami. Hein. Donc voilà, je crois qu'il est important de dire qu'il y a eu des collaborateurs qui nous ont quittés. Jean-Claude Bruneau aussi, qui avait fait un très bon papier sur l'ethnicité, sujet difficile en Afrique. Voilà. Et donc, j'ai été chercheur. Alors, quels sont les pays que j'ai parcourus? Quel thème de recherche? Je vais aller assez vite là-dessus. Le pays que je connais le mieux, mais on le voit dans le livre, c'est le Cameroun. Et le Cameroun, comme on dit sur place, c'est un peu une synthèse de l'Afrique. Il y a à la fois le Cameroun anglophone, et j'ai été dans le Cameroun anglophone, d'abord, pendant longtemps d'ailleurs. Et ensuite, j'ai été dans le Cameroun francophone, dans ce fameux pays bamiléké, que beaucoup de chercheurs ont adoré tellement qu'ils en ont déformé souvent la teneur scientifique, puisque c'était un modèle de terroir intensif, etc., une agriculture très actuelle, agroécologique, dirait-on aujourd'hui. Donc j'ai été dans cette zone, et ensuite j'étais en région du Yaoundé. Sur quel thème j'ai travaillé ? J'ai travaillé sur le développement rural. Je n'ai pas dit que j'étais géographe, d'ailleurs.
Si. Nous sommes géographes.
Oui, j'étais géographe, mais à l'INS, j'ai travaillé beaucoup avec les sociologues et les économistes, puisque c'était les disciplines dominantes. Donc, géographe, je me suis intéressé. La première chose que j'avais fait, c'est de la cartographie, des atlas, comme on faisait autrefois, dont des cartes ethniques que j'ai contestées après, que je conteste maintenant. Et donc... Ensuite, j'ai travaillé sur les questions de développement rural, puisqu'à cette époque-là, c'était le grand sujet. Ensuite, à l'initiative de la Banque mondiale, j'ai été amené à travailler sur les rapports ville-campagne, brousse-ville. Enfin, le mot brousse n'est jamais employé dans l'ouvrage. Hein, voilà un mot qui n'est pas employé. Un journaliste m'a dit, mais quoi, vous ne parlez pas de la brousse. C'est quoi la brousse?
Bon, pourquoi on parle de la brousse et pas de la campagne?
Voilà, sujet. Non, c'est un sujet qui m'a un peu déstabilisé, il faut bien le dire. Sauf qu'en géographie, ce n'est pas une catégorie que nous utilisons. Voilà, c'est une catégorie grand public. De la même manière, dans les années 80, au moment où ont commencé les programmes d'ajustement structurel, je me suis retrouvé à la tête d'une équipe franco-camerounaise de très nombreux chercheurs, et nous avons étudié tout de suite les effets de l'ajustement structurel et également les effets de la dévaluation du franc CFA. Parce qu'à cette époque-là, la France... qui disposait de la souveraineté monétaire sur ces pays-là, a décidé, au temps de Balladur, du jour au lendemain, de dévaluer de 50%. Et nous avons immédiatement travaillé sur comment les planteurs de cacao du Cameroun avaient subi cette dévaluation et qu'est-ce qui s'était passé dans les niveaux de vie, etc. Donc c'est un point important parce que, à partir de l'an 2000, la vision de l'Afrique était moins pessimiste. Alors, beaucoup de gens, comme M. Sévenet, ont dit que c'était l'ajustement qui avait réussi. Mais on y reviendra. Ensuite, donc voilà, éditeur, enseignant-chercheur. J'étais même au ministère de la Recherche à la belle époque d'Hubert Curien, qui était un grand ministre de la Recherche français. On s'occupait à l'époque de la recherche sur le tiers-monde. Je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, il y ait d'ailleurs une structure du même type dans laquelle il y avait une réflexion sur comment faire évoluer cette recherche, notamment pour fonder une science africaine, c'est-à-dire former nos partenaires africains, un des grands sujets qui me tient à cœur. Voilà un petit peu ma présentation. Alors, le livre, maintenant. Ce livre, il est parti de ce projet avec une cinquantaine de chercheurs que j'avais. On avait fait un premier travail collectif qui consistait à faire le diagnostic de ce qui se passait au Cameroun. Il y avait Paul Biya, il y a toujours Popol. Hein, et on avait appelé ce livre « Le désarroi camerounais ». Et les 20 thèses qui avaient été soutenues ont été résumées et orientées de manière géopolitique, en une dizaine de pages chacune, pour expliciter localement où en était le Cameroun et pourquoi il y avait cette espèce d'immobilisme fondamental. Et après, à partir de 2000, on s'est dit, mais on va faire mieux que ça. Un des gros problèmes, moi, qui m'agaçait, moi, je n'étais pas le seul, hein, beaucoup de chercheurs qui ont travaillé en Afrique étaient considérablement agacés par les articles de Stephen Smith du Monde, par ceux de Libération et tout ça, la manière dont nos grands journalistes rendaient compte de l'Afrique. Hein, on était agacés, et c'était les guerres tribales, et c'était les pauvres qui déferlaient en Europe, et c'était une mauvaise connaissance des capacités des femmes en Afrique, des comportements des Africains, également de la qualité de l'agriculture. Et sujet qui est récurrent, puisque on disait que les Africains ont une agriculture très peu performante, et c'est pour ça qu'ils connaissent des famines récurrentes, qu'ils connaissent des déficits vivriers, qu'ils importent massivement du riz, du riz comme au Sénégal, par exemple, qui de tout temps a importé, etc. Et donc, on s'est dit, on va prendre une cinquantaine d'idées reçues et essayer d'expliciter l'Afrique à partir des connaissances de terrain, parce que je dois dire que il n'y a pas que les géographes qui font du terrain, ça, il faut le dire à bord. Mais
les géographes font du terrain.
Mais ils en font, entre autres, et que j'ai réuni autour de ce projet des Africains et des Européens, des géographes et des non-géographes, des économistes, des, comme Jean-François Ménard, des politistes ou politologues, je ne sais plus ce qu'on doit dire maintenant. Et donc, on s'est dit, on va sur les sujets principaux, par exemple sur l'État, sur les fonctionnaires, sur la traite négrière qui n'est pas le seul fait des Européens, sur un certain nombre de non-dits, de stéréotypes, de vérités généralisées abusivement, de choses qui sont aussi du discours colonial, parce que pendant très longtemps, on a dit que les éleveurs en Afrique regardaient leur bétail, quoi. Ce n'était pas un élevage qui était destiné à produire de la viande, ainsi de suite. Donc, on a repris toute une série d'idées reçues. Il y en a bien plus que 50, et on en a choisi 50 pour illustrer ce qu'était l'Afrique en 2006. Et on a repris le livre en 2016. Voilà, voilà ce petit démarrage.
D'accord. Alors, on peut peut-être tout de suite prendre les différentes parties. Et je vais choisir un certain nombre de thèmes qui ont été traités. On ne va pas tout traiter, mais ce qui m'a paru ressortir ou pouvoir être souligné ce soir. Est-ce que, par contre, tu penses que... Non. Sur la première... Non, on y reviendra au fur et à mesure. Alors, la première partie s'appelle « L'Afrique est riche, mais les Africains dilapident les ressources ». Cette première partie est centrée donc autour des ressources, les ressources naturelles. Alors, avec un article qui dit « Les richesses naturelles doivent permettre le développement durable, etc. » Autour des ressources, donc les ressources minières, les ressources agricoles... Bon, il y a aussi un article sur le sida, de la malédiction à l'éradication, l'enclavement, l'accaparement des terres. Alors, une première question. Qu'est-ce que c'est que la malédiction, le syndrome hollandais ? Le syndrome hollandais à propos des richesses minières.
D'accord. Hein ? Je vais répondre un peu antérieurement sur le contenu de ce chapitre. La distinction qui est faite dans cet ouvrage est entre la potentialité et la ressource, ce qui est très important hein, quand on va parler, enfin si on parle de ces discours avec ces mots-clés, développement durable. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Il y a des potentialités. Quand vous allez chez Total, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas exploré l'ensemble des fonds marins du golfe de Guinée. Et quand ils sont allés en Ouganda ou quand ils sont allés dans un certain nombre d'autres pays, à suite à l'exploration, ils ont trouvé de nouvelles ressources pétrolières. Donc, un des points qu'il faut souligner derrière ce chapitre, c'est que l'Afrique est connue, mais elle n'est pas explorée pour ses ressources. Pour ses ressources en terre, ses ressources en eau, ses ressources en matières premières, ses ressources en pétrole. Et par ailleurs, les ressources existent à partir du moment où les technologies pour les exploiter existent aussi. Parce que si Total n'avait pas mis au point une capacité de forêt à 4000 mètres en dessous du niveau de la mer, on n'aurait pas en Angola une si forte production. Donc ça, c'est pour les ressources. Alors, dans ce chapitre, on a mis dans le mot ressources bien d'autres choses que les ressources minières. On a mis les ressources humaines, ce qu'on appelle d'un truc détestable, ressources humaines, c'est-à-dire les populations, les individus, les sociétés qui sont derrière et qui font en sorte que les ressources existent aussi. Hein. Ensuite, on a mis également dans ce chapitre le sida, c'est-à-dire la manière dont ces ressources ou ces potentialités sont exploitées, mises en valeur, formées, etc. Et donc, il y a un chapitre aussi sur les feux de brousse, un vieux chapitre d'autrefois, où on disait la défrichement en Afrique, c'est des grands feux, hein, comme on voit ressurgir en France ces dernières années, d'ailleurs. Hein. On voit, dans le Pays basque que je connais bien, on utilisait la même manière, le feu, pour dégager les plantes, les mauvaises plantes. Donc, tout ce chapitre est composé de ça. Alors, revenons donc à la manière dont les ressources sont exploitées et au syndrome hollandais, à la malédiction des ressources, dit-on parfois. Alors, le syndrome hollandais, comme son nom l'indique, vient de ce qui s'est passé en Hollande quand on a découvert le gaz de Groningue. L'effet de cette brusque apparition d'une ressource, on pourrait parler du gaz de lac aussi, hein. Cette ressource a apporté des finances publiques et également a permis à l'État hollandais de vivre au-dessus de ses moyens. On aurait pu penser qu'il allait investir ses ressources en mettant une plus-value à son exploitation, c'est-à-dire en transformant le gaz en électricité, en utilisant les sommes dégagées pour investir dans l'industrie locale, etc., faire des plus-values. Or, on s'est aperçu que cette ressource, au lieu d'apporter du mieux au devenir du pays, a eu des effets pervers, c'est-à-dire inflation, dévaluation de la monnaie. Alors là, maintenant, je pars par exemple au Nigeria. Hein, c'est le premier producteur de pétrole. Qu'est-ce qui s'est passé au Nigeria, que j'ai étudié par ailleurs? Au Nigeria, il s'est passé, grosse inflation, recrutement massif dans les fonctions publiques. Le Nigeria est un pays fédéral dans lequel les 36 États fédéraux ont une forme de fonction publique locale. Donc on a augmenté le nombre de fonctionnaires, on a augmenté les salaires des différents fonctionnaires et des employés du privé. Au lieu d'investir dans la production agricole, alors que du temps de la période britannique, le Nigeria était le principal producteur d'huile de palme, hein, et d'arachide, il a perdu cette place au profit de la Malaisie et autres. Et il a importé massivement du blé américain. Hein, dans les années 80, il y avait 3 millions de tonnes qui arrivaient à Lagos pour ravitailler les Nigériens. Donc il y a eu des effets pervers de la brusque découverte de ces ressources. Et ce qu'on dit souvent, c'est que quand on analyse sur l'ensemble de la planète la manière dont les pays ont géré les ressources pétrolières entre autres, hein, on pourrait parler aussi d'autres, mais c'est surtout dans le domaine pétrolier que ça s'est produit, il y a eu une certaine dilapidation des ressources. Nigeria est devenu un des principaux pays corrompus de la planète, si l'on en croit les témoignages de Transparency International qu'il faut prendre quand même avec des pincettes. Et tout cela a fait qu'aujourd'hui, Buhari est obligé, il veut réinvestir au Nigeria, hein, je sais plus, il a fait un projet il y a quelques jours de 20 milliards, quelque chose comme ça, d'euros d'investissement, et il est obligé d'emprunter, alors que c'est un pays très, très riche. Donc, un des problèmes, c'est l'Afrique est riche, mais les Africains n'en bénéficient pas beaucoup. Hein. On pourrait dire, de manière très abrupte, ils sont pauvres. Mais bon, la notion de pauvreté doit être déconstruite aussi. Voilà.
Alors, dans ce chapitre aussi, il y a alors une nouvelle idée reçue, parce qu'en 2005, ça n'existait pas, cette question de l'accaparement des terres. Cet accaparement des terres par les investisseurs, c'est quelque chose d'assez récent, et surtout qui s'est produit depuis 2008, hein, depuis la crise de 2008. Et aujourd'hui, des organismes comme la Banque mondiale ou certains bailleurs de fonds, je crois que la France soutient aussi l'AFD, prétendent que les accaparements de terres, les investissements pourraient permettre de répondre à la demande alimentaire. Alors là, c'est quelque chose à déconstruire.
OK. Donc, c'est vrai que pour ceux qui connaissent l'histoire longue de l'Afrique, une bonne partie de la colonisation en Afrique s'est faite, sauf en Afrique australe et au Kenya, au Zimbabwe, au Namibie, sur la base, disons, de l'exploitation des cultures de rente, on dit en français, des cash crops en anglais, qui se trouvaient sur place. C'est-à-dire que la petite paysannerie ou la moyenne paysannerie a été exploitée et soutenue, les deux ensemble, pour produire du cacao, du coton, de l'huile de palme, etc. Mais en restant maître de son foncier. Alors que dans les zones de colonisation de peuplement, et je pense à l'Afrique du Sud, qui se trouve avec ce problème, l'essentiel de l'agriculture sud-africaine, et notamment de ce qu'on exporte dans notre propre pays, c'est quand même le fait de l'accaparement des terres par des colons africaneurs, voire britanniques. De la même manière, au Zimbabwe, on a ce même phénomène, en Namibie aussi, et en partie au Kenya. Et ces phénomènes d'accaparement des terres dans ces pays-là posent toujours problème au niveau politique, au niveau idéologique, au niveau culturel. La scission qui s'est faite au niveau de l'ANC entre les Jacob Zuma et Malema, hein, elle s'est fait sur l'idée qu'il fallait récupérer les terres sans rembourser les Blancs. Je dis ça pour expliquer dans quel contexte la question foncière se pose. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que traditionnellement, dans toute cette Afrique subsaharienne, parce que le livre porte sur l'Afrique subsaharienne, hein, je le dis, 24, je rappelle deux ou trois chiffres quand même, 24 millions de kilomètres carrés, hein. C'est pas petit. Ensuite, il y a une cinquantaine d'États, des très grands États, hein, comme le Nigeria, l'Éthiopie, la République du Congo ou l'Afrique du Sud, mais aussi des tout petits États autour de 10 000 km carrés qui n'ont pas la même problématique que les autres, que ce soit les Comores, que ce soit la Gambie ou que ce soit l'île Maurice. Hein, voyez. Donc on parle de tous ces pays-là qui sont extrêmement différents. Hein, je le dis parce que c'est l'accaparement des terres actuelles est lié à deux ou trois questions de fond. La première question, c'est l'alternative au carburant de type hydrocarbure. On a recherché des biocarburants. Le deuxième problème de cet accaparement des terres, la justification qu'on en donne aujourd'hui, que ce soit la FAO ou la Banque mondiale, c'est de dire on va passer de 7 milliards d'humains à 9 milliards en 2050. Troisième élément, un certain nombre de pays sont à la limite de leur capacité avec leurs propres terres. C'est le cas de la Chine. C'est le cas depuis de l'Arabie saoudite. Non seulement ils ont des terres insuffisantes, mais ils ont un besoin de préserver leur indépendance alimentaire. Dans la géopolitique globale, il est clair que la libéralisation des matières premières vivrières est très discutée. Hein. L'Europe a créé la politique agricole commune, parce qu'on peut tout dire de l'Europe, mais il faut bien voir que pour retrouver son indépendance alimentaire, l'Europe a créé la politique agricole commune. Donc dans ce contexte général, et suite à la crise des subprimes, et dans la mesure où les fonds spéculatifs ont besoin de trouver de nouvelles ressources, la terre est devenue progressivement une matière première de ces fonds. Hein, je crois que la BNP a un fonds agricole, la Société Générale, enfin, je ne parle que des Français, hein, là. Mais la plupart des grandes firmes financières investissent dans le domaine agricole. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle on ne sait pas combien de millions d'hectares de terre ont été accaparés, ont été loués, ont été promises, ont été pensées pour être récupérées, puisqu'on ne sait pas exactement, on est incapable à l'heure actuelle de faire exactement l'inventaire de ce qui est dans ce domaine-là. Mais ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a plus de 150 millions d'hectares qui sont visés. Voilà. Et dans ces 150 millions d'hectares, qu'est-ce qui est visé ? Alors, on pourrait penser que c'est les pays les moins densément peuplés dans lesquels il y a beaucoup de terres. Pas vraiment. Alors, effectivement, il y en a. La République démocratique du Congo, hein, il y a 63 millions d'habitants sur 2 300 000 km², la superficie de l'Europe des 27. Hein. Et donc, il y a de la place. Là, il y a eu des promesses. Mais le problème, c'est que pour exploiter ces terres agricoles, il faut des routes, des chemins de fer, il faut que tout ça marche. Hein. On ne peut pas faire ça avec le téléphone portable. Donc, ça reste en pointillé. Par contre, l'Éthiopie, qui a basculé dans la doctrine libérale et qui est le pays qui a le plus de paysans en Afrique subsaharienne, tous ces pays dont je parle, dans la cinquantaine de pays, c'est en Éthiopie qui a le plus de paysans. Il y a eu une réforme agraire après Haïlé Sélassié, une redistribution des terres qui appartenaient à l'Église et aux militaires éthiopiens. Et là, on a donné plusieurs millions d'hectares, et notamment des sociétés travaillant pour l'Arabie saoudite qui se trouvent de l'autre côté de la mer Rouge. Voilà. Alors les problèmes que l'Afrique affronte, là, c'est au fond, est-ce que c'est une solution à venir pour résoudre les problèmes alimentaires et de l'Afrique d'abord et de la planète ensuite? La question se trouve posée. Dans le papier, nous ne tranchons pas totalement, mais ce que nous disons clairement, c'est que, et on en reparlera sûrement sur la question de l'emploi, c'est qu'il y a 500 millions de personnes dans les campagnes africaines, à l'heure où je vous parle encore, sur à peu près 1 milliard de subsahariens à l'heure actuelle. Hein. Les chiffres sont à prendre avec des pincettes, hein, mais c'est deux ordres de grandeur. Hein. Et cette question-là se pose avec cet accaparement des terres. D'autant que l'accaparement des terres, quand on regarde ça avec précision, quand on regarde le groupe Bolloré, par exemple, que tout le monde connaît, qui est très présent en Afrique et que je connais bien, hein, dans tous les ports africains, sur les chemins de fer, hein, une bonne partie des containers, c'est le groupe Bolloré qui débarque au Havre. Le groupe Bolloré a racheté, mettons, en Sierra Leone, hein, à travers une société luxembourgeoise ou je ne sais pas quoi, dans 30 000 hectares de terres qui ont été récupérés à des paysans qui utilisaient ces terres, bien évidemment. Parce que dans une agriculture paysanne avec longue jachère, même des terres qui, de satellites ou d'avions, paraissent inoccupées, c'est des terres au repos qui vont être réutilisées par la paysannerie. Et donc, il y a eu un bras de fer avec Vincent Bolloré, hein, les Camerounais n'étant pas les derniers, puisqu'il avait récupéré une centaine de milliers d'hectares de plantations de palmiers à huile au Cameroun, il a été obligé de faire des concessions sur la manière de fonctionner. C'est un détail qui n'est peut-être pas dans le livre, mais c'est pour vous dire qu'il y a des firmes françaises. Il y a une autre firme française qui est une coopérative qui fait du sucre dans le nord de la France, hein, Béguincé, hein, qui s'appelle Tereos ou je ne sais plus quoi, ils ont 100 000 hectares au Mozambique. Et effectivement, et là, effectivement, l'intérêt de ces hectares, c'est d'avoir de la canne à sucre et surtout de la main-d'œuvre très peu coûteuse, puisqu'ils utilisent quand même encore beaucoup de main-d'œuvre dans ces grandes plantations. Donc, ces accaparements de terre, la question que nous tentons de dire, c'est que ça ne va pas résoudre ni la question de l'alimentation de toute la planète. Il faudrait être au clair là-dessus, hein, sur les 2 milliards d'individus qui vont naître entre 2015 et 2050. Et par ailleurs, les équilibres alimentaires africains ne vont pas être améliorés très sérieusement par ces accaparements de terres. Bien que la Banque mondiale en fasse l'éloge en montrant l'exemple du Brésil et l'exemple de Thaïlande. Mais ce qu'on peut dire de manière synthétique, l'Afrique n'est pas un pays neuf comme le Brésil, au sens de pays neuf, avec des terres neuves, qu'on peut, et n'est pas un pays d'une fortement structuré pour mettre en place un capitalisme agraire africain. Et ça, c'est un des points importants à dire. C'est que pour l'instant, l'essentiel de l'agriculture familiale est elle permet, dans bien des cas quand même, d'employer et voire de nourrir la population dès lors qu'elle est soutenue par des politiques agricoles qui manquent sérieusement, malheureusement. Voilà.
Et par ailleurs, ces accaparements ont des conséquences extrêmement néfastes sur les populations paysannes.
Tout à fait.
Qui sont évincées.
Les gens sont évincés. La biodiversité disparaît ça, très souvent, puisque c'est des cultures pures et continues. Si je fais un peu d'agronomie, là, du coup, culture pure et continue, hein, dans laquelle il n'y a pas cette mélange de plantes, cette polyculture et cette agroforesterie que les agronomes ont fini par décrire. Ceux de l'agro ont mis pas mal de temps à le faire, mais il y a quelques travaux importants de l'agro qui montrent très clairement l'intérêt de ces mélanges de cultures. Quand on était dans le pays Bamileke, j'étais dans une université agronomique, on avait compté le nombre de plantes qui étaient cultivées, qui étaient vivrières dans une parcelle de 1 hectare. Et on en avait trouvé 60. C'est vous dire à quel point c'est important. Et ce qu'il faut dire aux Européens, c'est que sans, par exemple, le manioc, hein, on dit toujours le sorgho, on pense toujours aux céréales. Mais sans le manioc, qui produit 15 tonnes à l'hectare, hein, le manioc ou l'igname, des villes comme Abidjan, comme Lagos, comme Kinshasa, qui sont les plus grosses villes d'Afrique, auraient beaucoup de mal à s'approvisionner. Et donc, remerciant encore le manioc, et d'ailleurs, il y a des études, l'IRD y a travaillé pour éradiquer un certain nombre de problèmes de cette culture, mais il est clair que pour joindre en période de soudure alimentaire, quand les greniers sont vides et que la prochaine récolte n'est pas là, le manioc, souvent, permet de faire cette jointure pour des populations qui n'en mangent pas trop, je pense à ceux de la savane ou du Sahel. Mais dans les très grandes villes, à Abidjan, à Latieke, fait nourrir 200 ou 300 000 femmes qui vendent ça au bord de la rue, et à Lagos, c'est encore plus important avec le gari, etc. Donc, il faut rappeler que on mange des tas de plantes alimentaires, et l'Afrique est un réservoir de biodiversité assez extraordinaire là-dessus. Mais ces grandes plantations font de l'huile de palme, de l'EVA, on ne mange pas le caoutchouc à ma connaissance. L'huile de palme traditionnelle avait un intérêt d'ailleurs, on l'a recommandé à des enfants malnutris au Burkina à l'époque où je m'y trouvais, mais l'huile de palme artisanale, parce qu'elle contient de la provitamine A. Donc, voilà, il y a tout ça, la biodiversité, les problèmes de terres qui ne sont plus accessibles aux paysanneries. Ensuite, la biodiversité qui est dégradée. Ensuite, l'eau qui est récupérée massivement dans ces plantations, notamment en Éthiopie, c'est le cas, et au détriment des autres acteurs du monde rural. Voilà.
Bon. Donc, on ne reviendra pas sur cette question du monde rural. Vous l'avez compris, Georges et tous ceux qui travaillent sérieusement à la question pensent qu'en fait, l'avenir de l'Afrique, de l'alimentation en Afrique, elle est d'abord dans l'agriculture paysanne, dans le maintien de l'agriculture paysanne et dans la confirmation de ces savoirs, de ces techniques, d'abord parce que c'est pour la diversité biologique, et puis aussi parce que pour maintenir l'emploi, et peut-être que ça pourrait être un réservoir d'emploi aussi dans l'avenir qu'une agriculture paysanne qui ne serait pas obligatoirement intensive, mais productive avec des techniques qui ressemblent. D'ailleurs, qu'on redécouvre quand on parle chez nous de développement durable, association des cultures, etc. C'est des choses qu'on redécouvre aujourd'hui. Le fait de ne pas labourer profond, par exemple. C'est quelque chose qu'on abandonne chez nous.
Il faut bien dire que chez nos amis agronomes, moi je les ai suivis d'assez près, il y a eu des révolutions. Et la permaculture, toute une série.
Toutes ces choses-là, c'est
moi j'ai vu à l'INRA, l'époque où on ne pouvait même pas discuter avec un généticien. Et,
ça évolue quand même.
Ça a changé, même l'agriculture française. Et l'Afrique, de ce point de vue-là, est encore un terrain dans lequel ces choses-là peuvent trouver une expression importante.
Oui, où s'expriment déjà même. Bon, on va avancer parce que qu'est-ce que le temps passe vite. Alors, la deuxième partie, c'est lire le passé pour comprendre le présent et construire l'avenir. C'est extrêmement intéressant de voir qu'est-ce qui, aujourd'hui, ressort du passé et est important pour construire cet avenir. Alors, il y a plein d'idées reçues là-dessus. Et je voudrais que l'on revienne sur une idée forte qui est justement que les ethnies ont une origine précoloniale. En fait, c'est faux. En partie, là aussi, c'est quelque chose d'assez complexe. Il me disait, oh, c'est difficile de rentrer sur cette question, mais quand même, cette question ethnique, elle est souvent présente dans les pensées. Hein, les ethnies sont très prégnantes, l'esprit communautaire, etc., demeure, mais justement. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que l'ethnie en Afrique, entre ethnie et ethnicisme, comment se situer, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui peut être utilisé, voilà. Utilisable pour l'avenir.
Merci Annie. Je veux juste dire pourquoi ce chapitre nous a semblé très important. C'est dire, à la différence de notre ex-président Sarkozy, que l'Afrique a une histoire, voilà. Et une histoire extrêmement longue. Et elle n'est pas très connue, mais elle a été largement débroussée quand même dans un certain nombre de ses aspects. Et c'est sur ces aspects qu'on a voulu insister. C'est-à-dire le mode d'organisation des sociétés, en groupe, en lignage, en famille élargie, en ethnie. En ethnie telle qu'on a voulu le faire. Mais également, on a voulu montrer que cette notion d'ethnicité qui est essentialisée beaucoup par nous-mêmes, on l'a fait au temps de la colonisation, comme je l'ai dit moi-même, je l'ai fait, puisque quand vous faites une carte des ethnies, moi, je me suis... D'abord, ça fige quelque chose qui n'a pas de frontières. Hein. Les sociétés africaines, elles géraient les individus, les sociétés africaines avant l'arrivée de la colonisation, mais pas les territoires. Elles n'étaient pas très géographes. Elles étaient anthropologues, ces sociétés-là. C'est-à-dire, il y avait un lien un peu féodal, comme on a connu dans nos propres histoires médiévales, entre les sultans, entre les chefs traditionnels, etc., et puis les chefs de guerre, et la population qui était autour d'eux. Quant à savoir jusqu'où leur territoire allait, bon, ils savaient vaguement. Et puis, dès que les ressources s'épuisaient, on avait une très grande mobilité. Ce qu'il faut souligner, parce qu'on peut-être qu'on en parlera si on a le temps de parler d'immigration, mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'avant l'arrivée des Européens, il y avait une immense mobilité en Afrique. On circulait, les villages n'étaient pas figés une fois pour toutes, comme dans nos terroirs de France, où nos 36 000 communes, on les retrouve jusqu'au Moyen-Âge. Là-bas, quand vous allez là-bas, sur 100 ans, si vous essayez de savoir où se trouve le village de tel ou tel endroit, on vous dit « Ah, mais il était là-bas, et alors pourquoi il s'est déplacé ?» On s'est rapproché de la rivière parce qu'il y avait du poisson. Ou il y avait un sorcier, il y a quelqu'un qui était dangereux, bon, on s'est déplacé. Ou alors, il y avait des négriers qui venaient chercher des esclaves. Et bon, il y a tout un tas de raisons qui faisaient que l'habitat était mobile. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut les qualifier de huttes, comme certains journalistes nous ont fait en 2007. Hein. Et c'est des maisons. C'est des maisons confortables. Le chercheur que je suis, il préférait dormir dans une hutte plutôt que dans une maison de blanc qui n'était pas climatisée, parce qu'à l'époque où je travaillais, il n'y avait pas de clim partout, hein, loin de là. Et donc, sous l'atoll, ce n'était pas terrible. Donc, c'est pour vous dire que... Il y a tous ces aspects. Alors, revenons sur la question ethnique. Sur le plan scientifique, si on parle en tant que scientifique, l'ethnie n'existe pas. Sur le plan politique, elle surexiste. C'est-à-dire qu'il y a ce contraste. C'est-à-dire les politiciens, qui soient les administrateurs coloniaux, nous-mêmes, les chercheurs, les ethnologues ou les géographes, on a décrété qu'il y avait des ethnies. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est de la même ethnie ? Souvent, on ne parle pas la même langue. Moi, je connais des ethnies, enfin, de ce qu'on a qualifié d'ethnie, les gens ne parlent pas la même langue. Souvent, ils ont des structures agraires, pour parler un genre de vie, parce que c'est un truc qu'on n'utilise plus maintenant, un genre de vie qui semblait être peu ou prou le même, avec des dégradations vers les limites. Et effectivement, quand on recherche à tout prix l'ethnie, on peut la trouver. Mais elle change. Par exemple, au Kenya, on a inventé de nouvelles ethnies, les Kalenjin. Au Cameroun, entre 1969 et 2010, quand je suis repassé, il y avait de nouvelles ethnies dans la région de Douala. Moi, j'avais connu les Bakweri, mais je n'avais pas connu d'autres ethnies qu'on m'a dit, tiens, ça, c'est une nouvelle ethnie. Voilà. Et pourquoi il y avait des ethnies au Cameroun ? C'est parce que Paul, dans la Constitution, avait donné aux autochtones... des droits éminents sur la terre. Hein, parce que pendant longtemps, l'accès à la terre, j'en ai pas parlé pour l'accaparement foncier, mais j'en parle pour l'ethnicité, était relativement libre dans certaines sociétés. C'est-à-dire que il y avait une superposition de droits. Quand vous allez dans certaines exploitations agricoles, que vous demandez à qui sont les arbres, on vous dit c'est les arbres, le cacaoyer ou le caféier, c'est monsieur Untel. Et puis là, le manioc qui bouge, oh, c'est ma dame, mais c'est la dame du monsieur. Non, c'est notre dame, il a prêté. Ensuite, il y a les animaux qui viennent, et puis il y a les chasseurs, et chacun a ses droits et tout ça. Je ne dis pas que ça se gère toujours en bonne intelligence, loin de là, mais l'Afrique a développé la négociation permanente pour que chacun puisse tirer des revenus, surtout dans les périodes les plus anciennes. Et alors, la colonisation est arrivée avec le cadastre, avec les cartes ethniques, avec les cartes d'identité ethnique comme les Belges au Rwanda, etc., etc. Donc là, on a figé une certaine ethnicité. Un ethnisme, je dirais plutôt. Hein, parce que nos amis britanniques font la différence entre l'ethnicité morale et le tribalisme politique. Bon, je ne rentrerai pas dans cette distinction. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une certaine morale à l'intérieur de la famille, quoi. Hein. Si on prend l'ethnicité comme les différents lignages et clans, dans lesquels on a quand même des apparentements. Donc on a une conduite plus ou moins exemplaire, ce qui peut se discuter aujourd'hui au vu de ce qu'est l'Afrique. Et puis, le tribalisme politique, c'est-à-dire la mobilisation, par exemple, par Gbagbo, des Ivoiriens de souche de l'ouest de la Côte d'Ivoire contre Ouattara, hein, etc. Ou la mobilisation au Cameroun des Bétis contre les Babiléké. Et puis on pourrait au Kenya en 2012, ça a chauffé sérieusement, si bien que le tribunal pénal international s'est intéressé à ce problème. Donc c'est pour vous dire que l'ethnicité, elle n'a pas beaucoup de consistance. Parce que pourquoi, dans le Pays basque, on ne dit pas l'ethnie basque, hein ? Pourquoi on parle de peuple ? C'est des constructions politiques. C'est des constructions idéologiques, le peuple. Quand les gens sont populistes en France, c'est des constructions. Mais les scientifiques que nous sommes, on ne peut pas cautionner cette notion-là. Hein ? C'est des constructions. Mais c'est des constructions utiles. C'est des constructions dangereuses. C'est des constructions aussi dangereuses pour les politiciens. Et on dit souvent... Les dirigeants africains sont de mauvais gouvernants, mais quand il s'agit de politique, ils n'ont pas de leçons à recevoir des autres. Ils savent faire. Par exemple, un gars comme Paul Biya, il est au Cameroun 2 ou 3 mois par an. Et ça fait presque depuis 82 que ça a duré. Et en ce moment, ils sont tous dans les rues à réclamer le retour de Popol. Alors on se demande comment ça se fait qu'on ne lui a pas pris son trône. Et c'est parce qu'il sait gérer. Il sait gérer les choses qu'on ne voit pas, nous, les Blancs. Parce que ce que je dois dire, il y a un proverbe qui dit « Le Blanc ne voit que ce qu'il sait ». Voilà.
Alors ne sachez pas trop de sens. On lui dit que ce qu'il veut, on pourrait rajouter. On lui dit que ce qu'il veut. Alors justement, bon, cette question de l'ethnie, du tribalisme, ça, on dit aussi que c'est à l'origine des guerres. Et Dieu sait que les guerres... Alors, on a l'impression... en ce moment, qu'il y a une recrudescence des guerres en Afrique. Et il y a un article de Marc-Antoine Pérouse de Monclos qui est assez déstabilisant, disons, qui peut être déstabilisant, qui va contre l'idée que les guerres d'aujourd'hui sont plus nombreuses et plus meurtrières. Alors, c'est plus prédatrices et plus barbares. Ce qu'il dit, c'est que, c'est pas vrai, mais il dit que c'est une question de représentation. Alors, bon, là, je crois qu'il faut en parler, puisque, bon... Boko Haram, toutes ces questions-là. Puis en plus, on peut le lier à cette question des guerres de religion qui déstabiliserait l'Afrique. Comment on peut analyser cette question-là aujourd'hui en dehors d'une vision très médiatique, parce que c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on parle de ces questions et qu'on est tellement polarisé sur ces guerres en Afrique, d'ailleurs surtout au Mali, hein ? Parce que ça nous concerne. Parce que le terrorisme, c'est aussi chez nous, il s'exporte. Quand il ne s'exporte pas, ma foi, on s'en fiche un peu, on n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, est-ce qu'on parle beaucoup de Boko Haram ? Non, on parle beaucoup plus de l'EI, de la guerre au Mali, parce que ça nous concerne moins. Bon, si on regarde les conséquences des actions de Boko Haram, qui est-ce qui en souffre le plus ? Quand même, les populations africaines et musulmanes. Donc cette question-là, elle est très intéressante et pleine justement de ces idées reçues qu'il faut peut-être un petit peu décortiquer.
Oui, il y a deux sujets, quoi. Il y a la question de la guerre civile. Parce que nous, en Europe, là, l'expérience des dernières guerres, c'est des guerres d'État contre État. Donc, en Afrique, on est plus dans un sujet de guerre civile interne.
Ouais.
Hein? Et donc, là aussi, l'observation de ces guerres civiles, par exemple, actuellement, il y a un procès, il y a deux génocidaires rwandais qui sont au tribunal de Paris, mais il y a eu 800 000 morts, mais on parle extrêmement peu des 5 ou 6 millions de morts qu'ont connu la République démocratique du Congo. Okay. Dans une dizaine d'années, il y a un rapport des Nations Unies qui a été d'ailleurs mis sous le boisseau, mais qui a fait des enquêtes dans différentes régions du Congo. On le sait parce qu'il y a le film de Thierry Michel sur le monsieur qui répare les dames qui ont été violées à tour de bras dans le Kivu. Donc, si vous voulez, on a un regard qui se porte sur certaines choses, parce que sur le Rwanda, ce qui est mis en cause, c'est la manière dont la France a géré cette affaire. Mais revenons aux choses sur les guerres, sur les violences aussi. Hein. Les sociétés africaines sont très violentes, comme la plupart des sociétés. Elles sont en conflit, comme toutes les sociétés, la nôtre aussi, puisqu'on vit aussi ce qu'on a appelé le terrorisme. On peut se mettre ça entre guillemets, parce que là, juste en bas, là, j'ai regardé le musée de la Résistance. Il y avait des terroristes à Bordeaux en 1940 hein, aussi. Donc, voilà. Essayons d'utiliser les mots qui conviennent. Alors, les guerres, la période actuelle, même si on montre un certain nombre de massacres, surtout que c'est relayé médiatiquement, mais ces guerres, les guerres qu'a connues l'Afrique les 10 dernières années, c'est un peu moins important qu'auparavant. Disons, l'Afrique australe connaît une période de paix depuis que l'Afrique du Sud est passée à finir avec l'apartheid. Le Zimbabwe, c'est une espèce de Corée du Nord, là, au beau milieu de l'Afrique, et en attendant que le vieux satrape veuille bien décéder. Et par ailleurs, c'est la zone qui est la plus violente au niveau des... au niveau des médias, c'est surtout le Sahel, ça va de la Gambie ou de la Guinée-Bissau, devrais-je dire, là, gros exportateur de drogue. Mmh. Un tiers de la cocaïne passe par le Sahara qui nous arrive, et jusqu'à la Somalie. La Somalie, c'est depuis Belle-Lurette, il y a une guerre civile, les armées africaines interviennent, la réplique est souvent donnée au Kenya même, puisque l'armée kenyane est impliquée, et du coup, il y a eu des attaques sanglantes sur l'université de Garissa, sur les supermarchés de Nairobi. Et par ailleurs, l'armée française a été obligée d'intervenir au Mali et en Centrafrique suite, à des problèmes. Alors Boko Haram, qui existait bien avant, hein, bien avant ces affaires-là, a pris une extension très grande après la mort, suite à l'intervention de l'armée du Nigeria, du premier responsable de cette secte. Hein. On peut en discuter plus longuement, mais j'ai l'impression que ça va être trop... Ce qu'on peut dire simplement, c'est que l'islam radical est loin d'être la cause de tous ces trucs-là, et même, dans beaucoup de cas, égal à zéro. Alors, il est revendiqué comme idéologie. Hein. Boko Haram s'est revendiqué de Daesh, mais ils auraient pu se revendiquer d'autres choses. Hein. N'empêche que le faisceau de causes qui fait que Boko Haram a l'importance qu'il a est très diversifié. Il y a le foncier, il y a certaines formes de délaissement de la zone du nord-est du Nigeria par le gouvernement fédéral. Il y a également le fait qu'il y a un refus de l'école occidentale dans toute cette zone nord du Nigeria, comme du Cameroun. Hein. Au Cameroun, la colonisation française n'avait pas pu éduquer Hein, puisque Boko Haram, ça veut dire on refuse l'éducation occidentale. Hein. Un des aspects, c'est cette idée qu'on ne veut plus l'Occident, les Blancs, ceux qui racontent sur la place des femmes, la laïcité, etc., etc. Mais dès que la colonisation a été terminée au nord du Cameroun, tous les chefs ont refusé d'envoyer leurs enfants à l'école du Blanc. Si bien qu'un type qui s'appelait Aïdjo, qui était un fils de presque esclave, a été nommé grand chef, puisque les Français, Pierre Messmer, pour dire les noms, l'a choisi pour être président. Et Focard a mis les moyens pour qu'il le soit, quoi. Hein. Et il y a eu une guerre civile très, très longue au Cameroun, entre 55 et 71, qui a fait entre 200 000 et 400 000 morts. On n'en sait rien. On n'en sait rien au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc il y a eu toute cette histoire. Mais au fond... ce qui se passe en Afrique ne peut pas être décodé de manière binaire, les chrétiens contre les musulmans, et que les musulmans sont tous radicaux, alors que si vous allez dans un certain nombre de pays, vous voyez des musulmans tout à fait, entre guillemets, qui respectent l'état de droit. Hein. Voilà.
Je te laisse la parole. Oui, alors sur cette. On va venir à la troisième partie, qui est tout à fait intéressante et assez inattendue. Qui s'appelle les comportements irrationnels, mentalité rétrograde. Alors, de nos jours, parler de mentalité rétrograde, de comportement irrationnel, ça, c'est pas très politiquement correct. Ça se fait pas beaucoup dans les études scientifiques. On a tendance à considérer, à partir d'indicateurs quantitatifs, que, ma foi, une économie africaine fonctionne comme une économie occidentale. Et on parle très peu de cette question des mentalités. Là, il y a toute une partie sur ces mentalités, ces comportements irrationnels et rétrogrades. Et j'ai trouvé que dans les articles, en particulier de Pierre Janin, alors il y en a trois, « La solidarité africaine interdit l'accumulation »,« L'Afrique vit de rente et a développé une mentalité rentière », et le contrôle social est si fort qu'il décourage les initiatives et favorise la violence, que ces trois idées reçues, ils montrent quand même qu'il y a quand même une bonne part de vérité dans ces idées reçues. Je le trouve... On se demande même si c'est vraiment des idées reçues, quoi, à la limite, tu vois.
Oui, non, mais ça dépend.
Ces trois articles-là...
Oui, non, alors, mais j'entends bien
ce que tu veux dire. Je veux dire, avec cette prégnance de la communauté... Oh,
c'est vrai qu'il y a un quatrième article sur l'individualisme aussi qui devrait être rajouté à ça. C'est-à-dire qu'au fond, là, on s'est interrogé sur le comportement des individus à travers la manière dont nous les constatons. Quand vous allez à la poste, je ne sais pas moi, à Ouagadougou, ou à Dakar, ou à Yaoundé... vous voyez le postier en action. Et vous dites qu'il a une efficacité moindre ou il va fonctionner d'une certaine manière qui va vous faire penser que vous n'êtes pas forcément un client privilégié. Ou il va s'absenter pendant un laps de temps tellement long que vous allez vous décourager. Donc tous ces aspects-là, on a traité de ces affaires-là. Je parle de fonctionnaires, parce que c'est caricatural. Les Européens, qu'est-ce qu'ils voient de l'Afrique? Ils voient les fonctionnaires des douanes. Hein, ils les voient corrompus, parce que le flic, hein, le mange-mille, celui qui vous demande sa bière, hein, parce qu'il vous a arrêté sur la route, il regarde vos papiers, puis il sue la grosse goutte, et puis il vous dit « Le patron a ma bière !» Et tu dis, mais comment, hein, on va faire comment? Je lui dis, mais tu vas manger la cola avec moi, ma père. Le blanc, il connaît. Ah bon, donc, vous avez ces choses-là. Donc, nous avons essayé, je vous raconte des petits trucs, je pourrais en raconter d'autres, des petits détails du vécu, pour essayer de comprendre. Ensuite, quand vous êtes entre Européens, les Européens se reçoivent beaucoup là-bas, et vous avez toujours un petit discours sur le boy qui vole, sur le postier qui ne fait pas son boulot, sur le gendarme. Alors, finalement, vous vous demandez, et la Banque mondiale a parlé sous forme de mauvaise gouvernance, c'est-à-dire, on dit, ben, y a tous ces fonctionnaires en Afrique, le Fonds monétaire est venu ajuster l'Afrique, et vous avez tous ces fonctionnaires... Qui s'en mettent plein les poches, qui ne travaillent pas, les instituteurs qui sont absents ou qui demandent le poulet avant que le gosse rentre, etc. Et je ne parle pas du harcèlement sexuel, puisque c'est un sujet bien français en ce moment. Mmh. Bon, donc, si vous avez tous ces aspects-là, mais une société, elle est faite de tout ça. Et quand vous regardez le nombre de fonctionnaires par rapport à la population totale dans un pays comme l'Afrique du Sud et que vous comparez à l'Angleterre, mais l'Angleterre, qui est très libérale, comme chacun sait, eh bien, elle a beaucoup plus de fonctionnaires que l'Afrique du Sud pour une population légèrement plus importante. Et malgré ça, elle n'a pas assez d'infirmières. Le National Health Service anglais importe massivement les médecins et les infirmiers du Malawi. Voilà. Donc on a essayé d'expliquer ce qui se passait. Donc après... La question de la solidarité, ce que nous avons voulu montrer, mais là, bon, ça peut faire l'objet d'une discussion, c'est que dans des pays où il n'y a pas d'État-providence, quand il y a un problème, qui va payer le médicament pour le vieux qui va à l'hôpital? Qui va prendre l'enfant pour le mettre à l'école? Qui va s'occuper de la dame qui va accoucher, etc. Donc, on a ce qu'on appelle la solidarité. Mais ce n'est pas une solidarité comme nous l'entendons, qui veut dire générosité. C'est une solidarité, réciprocité. Quand le garçon, il part là de Yaoundé ou de Ouagadougou pour venir faire ses études à Bordeaux, financé par la moitié du village, hein, on attend de lui un retour sur investissement. Ce n'est pas de la générosité nécessairement. Ce n'est pas la bourse du fac qui n'existe plus. Hein. Je vous rassure tout de suite, la France a de moins en moins d'étudiants africains. D'ailleurs, j'en vois très peu dans la salle. Hein. Parce que Bordeaux en avait beaucoup à une certaine époque. Hein. Donc, ce que je peux vous dire, que moi, j'ai formé une cinquantaine de doctorants. Les deux tiers sont dans le pays, mais un bon tiers est au Canada et aux États-Unis. Moi, j'en ai un stock qui sont des auteurs de livres qui sont aux États-Unis. Parce que la green card, on l'accorde plus facilement. Parfois, au tirage au sort, hein, etc. Donc, c'est pour vous dire que la solidarité, je reviens à la solidarité, c'est pas nécessairement du parasitisme familial. Et alors là, il y a des négociations avec l'ajustement structurel. Quand vous êtes entrepreneur, hein, que vous avez un gros hôtel à Douala, mettons, j'en connais. Vous placez deux ou trois cousins, là. Hein, vous savez qu'ils foutront rien, mais vous les mettez, c'est les cousins. Et puis, le business sera géré. Parfois, vous récupérez un vrai blanc, un blanc qui va gérer la compta. La compta, oui, ça, c'est sérieux. Donc, si vous voulez, le parasitisme familial en fait son affaire, on négocie, on est dans une négociation entre ceux qui relèvent de la solidarité et ceux qui relèvent de la gestion normale d'une entreprise. Voilà. Mais je pourrais développer, oui, effectivement, sur la violence, sur des trucs comme ça. Mais,
sur le contrôle social.
Ah, le contrôle social, oui, ça... Mais le contrôle social, les femmes savent, s'il y a des femmes africaines, elles savent ce que ça veut dire. On ne fait pas ce qu'on veut dans la société africaine, surtout quand on est cadet. Il y a les aînés et les cadets. Hein. Et donc, on ne fait pas ce qu'on veut. Et les femmes peuvent trouver, en allant chez les pentecôtistes ou à l'Église catholique, des lieux où elles peuvent exprimer individuellement leurs affaires. Mais quand il s'agit de dot, quand il s'agit de mariage, quand il s'agit d'enfants, quand il s'agit d'aider les choses, là, les rappels à l'ordre existent. Ils ne sont pas toujours très clairs. Quand vous vivez dans une famille africaine et que vous les connaissez bien, ils ne vont pas trop vous le dire. Vous le ressentez parfois. Hein. La pression du contrôle social existe et elle s'exerce aussi avec la sorcellerie. Plus vous allez vers l'Afrique centrale, plus la sorcellerie est puissante. Donc il faut faire de la contre-sorcellerie. Il faut vous blinder, quoi. Et tout ça, c'est une vie, quoi. Mais ça n'explique pas tout. Il peut y avoir des comportements parfaitement rationnels en Afrique. Absolument. Et vous avez des investisseurs qui peuvent parfaitement poursuivre des objectifs sur une dizaine d'années, sans problème.
On a parlé là d'un certain nombre d'idées, oui, reçues, de comportements un peu... Il y a quand même quelque chose dont il faut qu'on parle, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui dans la pensée l'Afrique qui gagne, l'Afrique du business, l'Afrique des lions, hein, les lions africains, etc. Il y a toute cette cinquième partie, les lions africains sur la ligne de départ. L'Afrique est-elle un continent en émergence ou pas? Ça, il faut un peu qu'on en parle. Alors, c'est quoi? C'est une croissance... Bon, une croissance économique quand même qui dure depuis un certain temps maintenant, avec une croissance démographique extrêmement importante. Alors la grande question, c'est est-ce que la croissance démographique amène une dividende démographique? Est-ce qu'on va pouvoir profiter de cette importance des jeunes ou pas? Ou ça va être un frein, hein? L'urbanisation galopante aussi, est-ce que c'est un atout, est-ce que c'est un frein? On parle de... Là, il y a un article, parce que c'est toi qui l'as fait, d'ailleurs, sur le chaos urbain. Est-ce qu'on peut parler de chaos urbain alimenté par une urbanisation galopante? Ou alors la ville, c'est là que ça se passe, et la ville, l'urbanisation, c'est une chance en Afrique. Et la ville, d'ailleurs, qui n'est pas détachée de la campagne. Ce que tu vous montrais bien aussi, c'est qu'il n'y a plus cette dichotomie entre ville-campagne qu'on pouvait voir autrefois, parce qu'on l'étudiait à part aussi. Mais les relations ville-campagne sont constantes, et il y a des liens extrêmement forts, ne serait-ce que dans une agriculture qui est aussi une agriculture urbaine, etc. Donc, et puis, il y a aussi de plus en plus d'entrepreneurs, d'investisseurs, enfin voilà. Donc, ces atouts de l'Afrique, qui se traduit dans cette vision très optimiste aujourd'hui de l'Afrique, nouvelles frontières, l'Afrique pour faire du business, l'Afrique des nouvelles technologies, etc. Il y a aussi beaucoup d'idées reçues là-dedans, mais aussi une part de vérité.
Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais ce qu'il faut dire, là, puisqu'on est dans les chiffres, le PIB, quand le PIB augmente de 10% comme en Chine ou 10% comme en Angola, hein, prenons deux pays qui ont le même PIB, sauf que l'Angola ne produit pas les Apple que vous avez, les iPod, non, ce n'est pas ça qui produit l'Angola. L'Angola, avec l'argent qu'il récupère, il investit au Portugal. Et il récupère les ingénieurs portugais qui sont ajustés par la politique européenne. Donc vous voyez, ce n'est pas la même chose. La Chine et l'Angola, pourtant, c'est 10% de croissance annuelle. Alors, quand vous avez 10% de croissance annuelle, si la population augmente de 5% par an, de 3% par an, ça veut dire que cette richesse, par tête de pipe, elle diminue. Diminue 3%, si l'augmentation est de 3%. Donc, on estime que pour que l'Afrique émerge ou se développe, je dirais plutôt, parce que ce mot m'agace, se développe, il faudrait qu'il y ait un taux de croissance de 7% pendant 30 ans. Je cite le chiffre, mais là, ce n'est pas dans le livre. Là, on sort un peu du livre. Ouais. Là. Mais c'est au début du livre que je parle de l'afro-optimisme. C'est-à-dire que quand on compare ce qui se passe en France, mais on ne peut pas comparer la France à un niveau, même s'il y a des industrialisations, etc., un niveau d'équipement, etc., qui fait que 1% de l'augmentation de la richesse française, c'est déjà pas mal. C'est même mieux que 0,2%, etc. Et donc, ces taux de croissance, quand vous avez... Il faut quand même savoir que ces 50 pays, si je parle du PIB, c'est l'équivalent du PIB de la France, 2 000 milliards d'euros. Hein. Tous les pays, y compris l'Afrique du Sud et le Nigeria. Hein. Donc, on parle de pays, vous divisez par 1 milliard, nous on est 65 millions. Hein. Regardez ce que ça veut dire, hein. Il y a quand même une certaine différence. Ce qui explique d'ailleurs, parce qu'on le voit à la télé, parce que ce qu'on voit en Afrique, c'est qu'on voit comment les Blancs vivent. Ils vivent avec leurs petites tablettes et tout ça, donc chacun veut son circulaire. Donc, et puis sa bagnole, etc. Et donc, cette augmentation de la croissance, il faut qu'elle soit longue, durable, et qu'elle se traduise autrement que par une grande consommation, parce que c'est vrai que ce qu'on remarque, c'est que les Africains des classes, entre guillemets, moyennes, c'est-à-dire ceux qui gagnent plus de 20 dollars par jour, c'est très
catégorisation.
Ça peut se discuter, classe moyenne, même en France, les sociologues ne savent pas trop ce que c'est. Alors en Afrique, c'est plus compliqué encore. Donc les chiffres qui sont donnés, parce que les banques mondiales, les instituts divers donnent toujours des chiffres. C'est entre 90 millions d'Africains et 300 qui y auraient dans les classes moyennes. Mais tout ça, ça se discute. Hein. Et donc, ça c'est un aspect. Ils consomment. Le problème, c'est est-ce qu'ils produisent, est-ce que l'appareil productif africain est en place pour absorber le milliard de jeunes de moins de 25 ans qui va arriver sur le marché du travail? Ça, c'est une vaste question et le livre n'y répond pas vraiment. Il donne des pistes, le livre. Il donne des pistes. Il dit il y a le secteur informel. Il y a toutes les activités illégales, parce que l'Afrique est surdouée pour ça, mais les Français sont en train de montrer ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs. Et ça, c'est le secteur informel africain, ça.
Quand vous voyez les femmes.
Oui, oui. Il y a tout un tas d'éléments. Et puis, au niveau agricole, ça sera quand même le principal pôle d'emploi, de cette jeunesse, à condition qu'on ait une agriculture et des équipements ruraux où on aime vivre, puisqu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Mais là, je dépasse un peu ce qu'il y a dans le livre. Alors, on fait la revue de toutes les difficultés. Est-ce qu'il faut s'alarmer de la croissance démographique africaine?
Comme c'est la mode.
Vaste question. Maintenant. Ensuite, est-ce qu'il faut penser que l'argent des migrants va venir soutenir le développement dans les territoires, ou est-ce qu'il va s'investir dans la construction de mosquées comme du côté du Mali? Ça se voit beaucoup. Est-ce que la décentralisation du pouvoir va être une solution à l'absence, disons, de remise en cause de la division territoriale de l'Afrique? Il y a tout un tas de questions qui se posent, que nous abordons sans vraiment donner de réponse, parce que on analyse les instructions du Fonds monétaire et de la Banque mondiale comme des idées reçues. Quand on vous dit qu'il y a des États impuissants en Afrique, mais je suis désolé, l'État français a été assez puissant pour arrêter ce qu'on a vécu à Paris là, l'an dernier. Pas du tout. La police n'était pas en place. Enfin, je veux dire, quand on a vu... Quand on qualifie d'impuissants des États qui sont créés depuis 50 ans, hein, avec un État qui est là depuis Philippe Auguste, hein, et on s'aperçoit quand même que ça puisse... Un État puissant, c'est un État qui n'a pas de fraudeurs fiscaux. Je le répète, je suis désolé, mais la France est quand même assez douée pour être impuissante dans ce domaine. Ou alors, elle crée sa propre impuissance. Mais donc, les pays africains, le taux de recouvrement des impôts, puisque j'en parle, il est de l'ordre de 25%, ce qui est quand même... Il y a des pays, comme le Burkina où j'ai vécu, où le ramassage des impôts est assez efficace. D'autres, comme au Cameroun, c'était pas le cas. Bon, je vous dis, il y a des tas de situations différentes, mais il est évident que vous avez un État puissant, à partir du moment où il ramasse des impôts, à partir du moment où il met en place des écoles, des hôpitaux qui fonctionnent, des routes qui sont réparées, etc., et des chemins de fer qui marchent. Hein. Toutes ces questions-là sont liées à l'État.
C'est bien. Merci.